En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Canal Academy vous propose d'écouter 5 interventions d'académiciens des sciences morales et politiques et de l'Académie pontificale de Rome dans le cadre d'un colloque consacré à l'identité changeante de l'individu. Celui-ci s'est déroulé à la Fondation Simone et Cino del Duca à Paris les 24-25 janvier 2008 en lien avec l'Institut de France et l'Académie pontificale. Dans cette retransmission, nous vous proposons d'écouter Bernard Roch, professeur des sciences pharmaceutiques et biologiques, membre de l'Académie des sciences, sur la question des drogues et de la recherche d'identité. Le recours permanent à la drogue reflèterait une difficulté, voire une impossibilité à mettre en œuvre une conduite ajustée aux situations rencontrées, conflictuelles ou non. Cela entraînerait une dévalorisation permanente, temporairement surmontée par une consommation de drogue. Écoutons sans plus tarder les explications détaillées de Bernard Roch.
Alors tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Carosella et la Fondation Del Duca de m'avoir invité à vous parler de drogue et recherche d'identité. Et c'est vrai qu'associer drogue et recherche d'identité peut paraître étrange, puisque les drogues, ou plus généralement les psychotropes, à risque d'abus et donc de dépendance, ont comme propriété commune de modifier nos états de conscience. Certaines font exploser notre perception du monde, affectant donc la maîtrise de nos pensées, de nos affects. Nous les considérons donc comme une atteinte à l'expression de notre moi cérébral. Pourtant, force est de constater que l'utilisation des drogues est de plus en plus importante dans une des périodes clés où se construit l'identité, c'est-à-dire l'adolescence. Vous connaissez tous ces chiffres, ce sont les derniers chiffres de l'OFDT, de l'Office français de drogue et des toxicomanies. Je cherche la flèche. Pour ce qui est du cannabis, vous avez une consommation en expérimentation qui est très élevée, de l'ordre de 12 millions. Voilà. Et elle descend, et ceci est important, dans les usagers quotidiens à 550 000. Et c'est parmi ces 550 000 usagers qu'on trouve évidemment des personnes dépendantes qui sont de l'ordre de 5% dans le cas du cannabis. Ce qui est peut-être plus alarmant, c'est que dans les produits licites, et vous le savez, vous l'avez lu dans la presse, dans le cas de l'alcool, les expérimentateurs sont évidemment plus nombreux, ce qui n'est pas étonnant. Ce qui est plus inquiétant, c'est que les usagers quotidiens montent à 6,4 millions et que les personnes dépendantes sont plus de 10% dans ce cas-là, alors qu'elles sont entre aux environs de 5 à 6% dans le cas du cannabis, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes dépendantes à l'alcool qu'au cannabis. Alors ces drogues ont plus généralement psychotropes, car il faut y associer nombre de médicaments du système nerveux central, sont donc capables de modifier nos comportements, comme nous le verrons, et par conséquent faire évoluer les différents niveaux identitaires que sont la société, le groupe et l'individu. Dans le champ psychologique, la notion d'identité évolue constamment entre ressemblance et différence, alimentée en cela par le caractère génétiquement unique de chaque individu. L'identité, c'est à la fois être différent et être semblable, mais surtout être unique. Le sentiment de valeur personnelle ou l'estime de soi correspondent à l'évaluation de l'individu par lui-même. Des réponses à cette auto-évaluation naît l'estime de soi. Cette auto-évaluation est représentée de manière très schématique. Toutes n'ont pas la même importance, mais bien sûr, l'estime de soi, c'est la façon dont on s'évalue. La représentation de soi est très importante. L'image de soi, bien entendu, extrêmement importante. Puis, bien sûr, le soi social, le soi intime. Et des dysfonctionnements dans ces estimes de soi peut conduire effectivement à une certaine vulnérabilité à la prise de drogue, et j'en reparlerai tout à l'heure. L'estime de soi apparaît donc comme étant l'une des clés de la mise en place de son identité. Dans les sociétés modernes, où la compétition s'avère être une exigence de réalisation sociale, seuls les individus ayant une bonne estime d'eux-mêmes seront capables de se réaliser par les identifications revendiquées qui permettront l'évolution de leur projet personnel. Les autres, les individus qui souffrent d'une perte de l'estime de soi, sont restreints à s'enfermer dans des formes de société de type culturel et communautaire, leur offrant pour seule compensation le sentiment de sécurité qui leur fait défaut. La construction de l'identité s'effectue de manière progressive depuis la naissance, sans exclure de possibles influences prénatales sur les aptitudes futures à faire éclore sa personnalité, qui sont du reste actuellement très étudiées. Dans cette construction identitaire, deux stades sont particulièrement importants, celui de la très petite enfance et celui de l'adolescence. Sur le plan neurobiologique, tout au long de notre vie, les réponses comportementales adaptées à une situation particulière s'effectueront en puisant dans un répertoire de situations identiques ou similaires déjà vécues et que le cerveau a accumulées au cours de son développement, comme l'ont montré Stanislas Zehen, Jean-Pierre Changeux et bien d'autres. On conçoit dès lors l'importance de l'environnement affectif et socioculturel dans lequel s'effectuera la constitution de l'identité. Entre 1 an et 2 ans, l'enfant reconnaît son image dans le miroir et se l'approprie. Par comparaison, il fait la différence entre le monde extérieur et son image propre. C'est l'étape de différenciation dont les déficits peuvent engendrer narcissisme et repli sur soi, au contraire impulsivité et comportement antisocial. Dans les deux cas, la souffrance générée peut conduire à l'abus et à la dépendance aux drogues. Ces enfants très jeunes sont extrêmement sensibles aux expressions des visages. Dans des conditions environnementales identiques et agréables, le sourire de la mère un jour et celui mêlé de tristesse un autre jour conduira à une mémorisation ambiguë de la situation dans le répertoire émotionnel. Voilà, sur cette illustration un peu caricaturale, l'ambiance ici est parfaitement idyllique. La mer est calme, le ciel est bleu, le sable semble parfait, on est sur une plage, et l'enfant regarde le visage de la mère, et c'est un visage très souriant, c'est la partie haute de la figure. Et puis dans la partie basse, c'est exactement dans le même environnement, l'enfant se trouve exactement dans le même environnement, mais il regarde sa mère, et pour des raisons probablement personnelles. Sa mère n'a plus le même visage, elle a un visage contracté, elle est très tendue, et l'enfant ne comprend plus, il y a une sorte de confusion dans son esprit entre la situation, qui est une situation presque idyllique, je dirais, et ce qui apparaît dans le visage de sa mère. Ceci pourrait engendrer plus tard une certaine anxiété dans le rapport aux autres, dont on a pu montrer par neuroimagerie qu'il aboutissait à une stimulation en retour des mêmes régions cérébrales que celles activées par la gestuelle ou le discours de l'interlocuteur. Ceci a été bien démontré par Jeannereau, par exemple. Il en est de même avec plus de force pour les enfants qui ont subi des maltraitances, en particulier sexuelles, durant l'enfance. Très souvent, ces expériences de la petite enfance, mais également d'autres moins dramatiques, sont enfouis, sans doute par des processus d'inhibition du stockage mnésique, dont les mécanismes sont encore inconnus. Il s'ensuivra peu à peu des sentiments de frustration, de tension intérieure et une anhédonie plus ou moins permanente, se traduisant par une altération de l'image de soi. Celle-ci peut être figurée schématiquement comme l'adéquation harmonieuse entre la conscience de son corps, sa singularité par rapport aux autres, et sa faculté d'introspection positive. Le miroir brisé se traduira par une vulnérabilité décuplée à la consommation de drogue à l'adolescence, pour des raisons que nous verrons ultérieurement. Voyons maintenant le passage de l'enfance à l'adolescence. C'est la mue du homard, selon l'expression de Françoise Dolto. Elle exige une évolution, une adaptation dans la perception de son corps et dans son identité par rapport aux autres. Comme illustré dans le cliché suivant, à ce moment de la vie où le sentiment de soi est encore fragile, l'adolescent rencontre la difficulté de s'assumer seul, la perte à la fois voulue et redoutée du lien familial, la révélation des attirances sexuelles et la difficulté de les aborder, les échecs scolaires et la dévalorisation qui s'y associe, la recherche du conflit avec le milieu éducatif comme preuve d'autonomie et l'insécurité liée à l'absence de réponse ferme et structurante. À cela s'ajoute le contexte familial anxiogène, les milieux socioculturels défavorisés, la consommation de drogue par les pères, les sentiments d'injustice qui portent à la révolte. L'adolescence est donc une période de crise pendant laquelle on retrouve très souvent des conduites à risque qui s'inscrivent dans des recherches d'excès puis de limites extrêmes. On pourrait multiplier les causes non organiques de vulnérabilité, il s'agit là de causes non organiques, à la consommation de produits psychoactifs. Ce qui réunit les consommateurs dépendants, c'est la sensation que la volonté seule ne résoudra pas les problèmes auxquels ils sont confrontés et que seule la béquille hédonique leur donnera la force de vivre. Le trait commun et l'absence, je l'ai déjà dit, des signes de soi au travers du constat amer de n'être que soi-même. N'oublions pas que c'est à cette période, 14-18 ans, que le nombre de suicides est le plus important. Il est de l'ordre de 12 000 par an en France. L'échec de ces conduites d'adaptation, reconnues pourtant comme indispensables pour grandir, peut conduire à tenter de le surmonter par l'usage de drogue. Mais comme le dit parfaitement Le Breton, la souffrance est en amont, perpétuée par une conjonction complexe entre une société, une structure familiale, une histoire de vie. Les conduites à risque sont une manière radicale de s'en extraire, de forcer le passage pour accéder à un autre sentiment de soi. Il est maintenant temps de s'interroger sur l'effet des drogues, consommées, comme vous l'avez vu, en grande quantité par les jeunes de 15 à 25 ans, qui, pour la très grande majorité, en dehors des hallucinogènes purs, qui sont du reste peu addictifs, tels que les champignons du Mexique, l'acide lysergique ou LSD, sont essentiellement des psychotropes aux puissantes propriétés hédoniques et désinhibantes, opioïdes divers, cocaïne, stimulants dont l'ecstasy, l'alcool, le cannabis. Comment peuvent-elles jouer dans la recherche d'une identité? En fait, c'est le plaisir qui est le facteur essentiel. Le système hédonique joue un rôle crucial dans nos comportements. Il s'est perpétué depuis les vertébrés les plus primitifs jusqu'à nous, car il est associé à des fonctions vitales, recherche de nourriture, bien sûr, défense contre les prédateurs, c'est-à-dire adaptation chez l'homme, et maintien de l'espèce. Sur le plan neuronal, il est essentiellement constitué par deux grandes voies nommées mésocorticales et mésolimbiques. Je voudrais déjà vous montrer que vous avez le neurotransmetteur de l'hédonie, du plaisir qu'est la dopamine, dans des voies neuronales que je vais préciser par la suite. Et vous voyez bien que vous avez ici un système de contrôle. Ce système de contrôle est effectué par des peptides, les peptides opioïdes ou les morphines internes que sont les encéphalines d'une part, qui vont activer ce système dopaminergique hédonique et au contraire qui vont donc donner une sédation, une euphorie, une sensation de bien-être, des effets antidépresseurs, une désinhibition. Et puis de l'autre côté, je parle là bien entendu du système endogène, et de l'autre côté, des systèmes opposants qui font balance, et comme vous le savez, l'organisation humaine est ainsi faite, il y a toujours un système de balance de façon à ce que l'homéostasie soit perpétuée, eh bien il existe des peptides tels que la cholécystokinine qui vont avoir un effet inverse, qui vont être anxiogènes en augmentant la vigilance et en allant jusqu'à l'anxiété avec des effets dépresseurs. Dépressif. Donc, le cliché suivant va vous montrer les voies dopaminergiques dans le cerveau humain. Donc, vous avez cette flèche rouge ici qui indique qu'une stimulation de ces grands faisceaux ici produit une sensation aussi bien chez l'homme que chez l'animal, une sensation de plaisir extrêmement intense. Et les voies sont la voie méso, donc qui part du bas et qui va sur le nucléus accumbens, le noyau accumbens. Qui est la voie mésolimbique et la voie mésocorticale qui va donc de la base du cerveau ici jusqu'au cortex frontal, en particulier le cortex préfrontal. Alors, comme je vous l'ai dit, ce système est connu depuis toujours, il s'est perpétué au cours de l'évolution, et c'est ainsi que, par exemple, manger ou faire l'amour engendre du plaisir et donc libère de la dopamine, où prise de cocaïne, contemplation d'images érotiques activent les mêmes régions cérébrales examinées par neuroimagerie. Ce sont les points bleus que vous voyez ici. Et vous avez à gauche la prise de cocaïne et à droite les images dont je vous parlais. Dans ce système hédonique, nos morphines internes semblent jouer un rôle dominant puisqu'on les trouve impliquées dans les réponses euphorisantes, antidépressives ou désinhibitrices de toutes les autres drogues. Il est possible que des dysfonctionnements dans l'homéostasie du système hédonique soient un des facteurs de la consommation abusive de drogue et plus encore de la dépendance à celle-ci. Une phrase issue du rapport sur la dangerosité des drogues pour le ministère de la Santé que nous avons fait en 1998 dit en gros « Le recours permanent à la drogue reflèterait une difficulté, voire une impossibilité à mettre en œuvre une conduite ajustée aux situations rencontrées, conflictuelles ou non, cela entraînerait une dévalorisation et une anhédonie permanente, temporairement surmontée par la consommation de drogue. Bien entendu, tous les individus ne sont pas égaux devant la transition consommation, abus et dépendance. Il existe de nombreux facteurs de risque, je vous en ai déjà donné tout à l'heure, mais je vous en redonnerai tout à l'heure de nouveau, et ceux-là seront d'ordre génétique et de comorbidité. Alors, de manière générale, les consommations de drogue, même fréquentes, conduisent heureusement rarement à des pratiques d'abus, et même celles-ci n'évoluent pas nécessairement vers des comportements addictifs. Ceux-ci sont caractérisés par une perte de contrôle de sa consommation et un besoin irrépressible, compulsif, de renouveler la consommation ou plus généralement l'action qui a produit la sensation primitive. Ceci est vrai pour les addictions sans produit. Ceci pourrait être causé par une hypersensibilisation du système hédonique et donc à une surévaluation associée à une mémorisation stratifiée de cette sensation intense ou l'extrême difficulté du retour à l'abstinence. Et c'est bien tout le problème de la dépendance. Il existe de nombreux paramètres impliqués dans le passage de l'abus à la dépendance où le contexte identitaire, au sens génétique, physiopathologique et socioculturel, joue un rôle majeur. Si le concept d'identité est associé, comme nous l'avons vu, avec le seuil de l'estime de soi, c'est la perte de celle-ci qui s'attache aux personnes dépendantes. Les liens que le sujet entretenait avec sa famille, ses pairs, les institutions sociales sont rompues. En ce sens, on peut parler de crise identitaire. Nous n'entrerons pas dans le débat sur la liberté des pratiques de consommation, dont la cohérence est loin d'être claire, y compris en termes de santé publique. Le tabac et l'alcool sont sous contrôle, mais licites, bien que leur consommation reste de loin la plus meurtrière. Plus de 9% pour l'alcool, 3,2% pour le tabac et 0,4% pour l'ensemble des drogues illicites. Comme le souligne Alain Renberg dans La fatigue d'être soi, désormais rien n'est vraiment interdit, mais rien n'est vraiment possible. Dans ces conditions, la recherche du soi soulève d'épineux problèmes de frontières entre le permis et le défendu, le possible et l'impossible, le normal et le pathologique. La jeunesse forme son identité sur l'interdit par les autres, c'est-à-dire nécessairement à cette période de la vie, par ceux qu'ils considèrent comme des oppresseurs familiaux et ou sociaux. Ceci n'est pas nouveau, et l'association de la prévention qui vise au degré zéro de l'usage des drogues illicites, conforme au risque zéro cher au principe de précaution, ne prend sans doute pas suffisamment en compte les maladies de notre civilisation, d'où la révolte devant ces oublis. Les désordres des quartiers difficiles sont plus proches de la jacquerie du Moyen-Âge que de la Révolution. Ceci n'est pas sans rappeler que l'expérience communautaire rituelle des Amérindiens, qui contrôlaient et contrôlent toujours leur consommation de psychotropes hallucinogènes ou de feuilles de coca, et la consommation de cat en Somalie, eh bien ces consommations sont des consommations rituelles, et il est bien connu qu'il y a très très peu de personnes dépendantes, parce que la prise de qui sont des toxiques malgré tout, se fait selon un rituel qui empêche la surconsommation et par conséquent l'abus et la dépendance. Lors du mouvement psychédélique aux États-Unis, issu d'une volonté contre-culturelle, des milliers de personnes se rassemblaient dans les années 50-60 sous la houlette d'écrivains et musiciens transformés en grands prêtres pour expérimenter les hallucinogènes amérindiens et plus encore le LSD ou acide. Et vous voyez ici un autobus qui distribuait, qui est très fameux dans la littérature de l'époque, et qui transportait du LSD et le fournissait à tous les consommateurs. De rituel en rituel, c'est désormais l'ecstasy qui fait l'objet d'une consommation intensive dans le cadre des rêves. Ces réunions auxquelles participent des milliers de jeunes sont le prétexte à danser des heures sur une musique techno très rythmée. L'ecstasy, mais pas seulement l'ecstasy, les amphétamines, le LSD, la cocaïne, permet d'évacuer la fatigue et d'augmenter les échanges et les contacts physiques. D'où son surnom mythique de pilule de l'amour. En fait, c'est de désinhibition qu'il s'agit. Pourtant, on ne devient pas addict par hasard. Il est désormais bien établi que pour s'adapter aux événements de la vie, y compris les frustrations diverses, il est nécessaire d'équilibrer le fonctionnement de son système hédonique. Pour des raisons génétiques, ceci est quelquefois problématique, comme le montrent des expériences effectuées sur des vrais et des faux jumeaux placés dans le même environnement socio-culturel. C'est ainsi que, si vous comparez ici, on voit peut-être pas très bien, En haut, ce sont des vrais jumeaux. En bas, ce sont des faux jumeaux. Et vous voyez très bien que C, ça veut dire consommation de cocaïne. M, c'est consommation de cannabis ou marijuana. Et vous voyez que tant sur le plan de la consommation que de l'abus et de la dépendance, le pourcentage est beaucoup plus grand dans le cas des vrais jumeaux que dans le cas des faux jumeaux. Par exemple, en termes de dépendance, il y a très peu de dépendance dans ces conditions d'expérimentation dans le cas des faux jumeaux par rapport aux vrais jumeaux. Chez les jeunes, les pratiques addictives se décomposent en recherche de danger et d'aventure, recherche de nouveautés, désinhibition, automédication. Ce dernier point rappelle que les addictions sont souvent associées à des états dépressifs dans lesquels le sentiment d'impossibilité de se réaliser est très présent et est vécu comme une profonde injustice. Les addictions sont donc souvent associées à la souffrance sociale, ce qui a fait dire à Antonin Artaud: tant que nous ne serons parvenus à supprimer aucune des causes du désespoir humain, nous n'aurons pas le droit d'essayer de supprimer les moyens par lesquels l'homme essaye de se décrasser du désespoir. En attendant que nous corrigions la détresse humaine, il est de notre devoir de fournir aux plus démunis l'assistance psychologique qui leur redonnera une estime de soi et par là même leur identité perdue. Je vous remercie de votre attention.
C'était Bernard Roch, membre de l'Académie des sciences. Il s'exprimait sur la question des drogues et de la recherche d'identité à partir des derniers chiffres de l'Office français des drogues et de toxicomanie. Conférence qui avait lieu dans le cadre d'un colloque consacré à l'identité changeante de l'individu qui s'est déroulé fin janvier 2008 à la Fondation Simone Etchino del Duca à Paris. Restez sur Canal Académie et écoutez les interventions des confrères de Bernard Roch. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, immunologiste, évoque le thème toujours troublant des vrais jumeaux et de leur identité. François Gros, généticien, membre de l'Académie des sciences, développe la question de la génétique qui nous rend à la fois si semblables et différents. François Théré, juriste, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, s'exprime sur l'identité dans les textes de droit. Et enfin, son éminence Marcello Sanchez Sorando, chancelier des Académies pontificales des sciences et des sciences sociales, développe quant à lui une possible réconciliation entre la notion d'identité pour les scientifiques et les philosophes. Toutes ces interventions sont sur le site de Canal Académie en libre téléchargement. Merci de votre écoute et à très vite pour de nouvelles émissions.